88.4 Radio Galère.
Beau gosse, fort chaud, Oxmo Puccino sur le 88.4 FM Radio Galère avec un gamme majuscule, you know, toi même tu sais.
Yes, on se retrouve pour les nouvelles de mars avec la voix de Oxmo un peu avant. Du coup, les nouvelles de mars fait sa rentrée et je suis là et on est là. On est là pour se mettre bien, pour faire bien les choses. Du coup, aujourd'hui, c'est l'épisode 19 qui s'intitule « Fille de Blédard ». Et il y aura une interview du collectif « Fille de Blédard » et de Living Dakota avec Alexia, avec Myriam, avec Célic. Et aujourd'hui, on a un invité, plus exactement une invitée spéciale qui va nous parler des violences faites aux femmes, qui va nous parler du féminicide qui est en train de se dérouler actuellement en France. Le fait que avant tous les deux jours, une femme mourait sous les coups de son conjoint. Tous les trois jours, pardon, une femme mourait sous les coups de son conjoint. Et maintenant, c'est tous les deux jours. Et du coup, ça escalade, ça n'arrête pas de grimper. Ça fait maintenant 103 femmes qui sont mortes. Et du coup, il faut en parler. Et justement, Marie sera là tout à l'heure avec nous. Mais avant de voir Marie, on va peut-être faire une petite pause musicale, essayer d'écouter un peu d'afrobeat. Voilà, avec Oh Boy, que j'ai découvert grâce à une amie à moi, Alina. Merci d'avoir fait découvrir cet artiste. Merci, Alina.
Je suis pété, en affecté, mais je fais. Je suis dans la chop, check dans ma vie si je veux sep. J'écoute ces mythes où j'ai tiep, j'écoute la voix dans ma tête. Je suis la panique et ta fête, t'es la propre sur la zep. Elle veut déchaîner la bête, y'a que des fous dans l'équipe, hey. Là j'suis pété, rien à fêter, mais je fête. J'sors la cité, quand y'a un choqué, j'brûle la scène. Elle est teubée, pas décidée, donc j'l'annexe. Balle dans te thé, si tu t'assois sur la tête. J'suis dans la trappe, elle me voit son vagin s'hydrate. Elle refuse de me lâcher la grappe, j'suis homme, c'est le con des m'attrape. Que de la frappe, tout rouge quand j'lève la patte. Pas besoin de pousser les bras, les petits sont vifs, c'est à drap. Rien à fêter, m'bêter, mais je fête. Les petites de la cité vont te liquider pour la dette. Rien à fêter, m'bêter, mais je fête. Les petites de la cité vont te liquider pour la dette. J'ai mis de la peuf dans la massa. J'roule un bazar, demain faut qu'on brasse. Ils font bluff, mais c'est pas ça. Mais qui est pas ça, ils sont pas ça, je les laisse là-bas. T'es dans la bulle, j'suis dans ma bulle, j'allume ma bulle. Toujours à la vue, ta mère la pute, j'ai l'arme à feu. Rien à fêter, m'fêter, mais je fête. Les petites de la cité vont te liquider pour la dette. Rien à fêter, m'fêter, mais je fête. Les petites de la cité vont te liquider pour la dette. J'roule un bazar, demain faut qu'on brasse. J'roule un bazar, demain faut qu'on brasse. Ils font bluff, mais c'est pas ça. Mais qui est pas ça, ils ont pas ça, je les laisse là-bas. Rien à fêter, m'fêter, mais je fête. Les petites de la cité vont te liquider pour la dette. Rien à fêter, m'fêter, mais je fête. Les petites de la cité vont te liquider pour la dette.
De retour sur 88.4 pour les nouvelles de mars. Vous êtes avec Waka, ou plus exactement DJ Waka. On est là, on est bien et on fait ce qu'il y a à faire. Et du coup, comme toujours, on est là sur... Radio Galère, et on va parler de l'actualité en attendant que Marie arrive, parce qu'elle a un peu pris du retard. Du coup, l'actu. les femmes de chambre de l'hôtel NH. Du coup, les femmes de chambre de l'hôtel NH sont toujours en train de... de faire la grève, malheureusement. C'est comme ça, c'est la France. Quand t'es une femme racisée, souvent noire ou arabe, tu es sous-traitée, donc mal payée. Et du coup, Max Actu titrait le 23 septembre 2019, après 67 jours de grève, les femmes de chambre de l'hôtel NH, situées à La Violette, ont décidé de stopper leur mouvement ce lundi. Ouais, malheureusement. Celles-ci se battaient pour obtenir les meilleures conditions de travail, mais n'ont pas obtenu gain de cause. Elles se sont exprimées ce week-end par la voix d'un communiqué via la CNT, via leur syndicat. Donc, la grève est arrêtée. Du coup, j'espère que ça va reprendre, mais vu le communiqué qu'elles ont écrit, c'est mort. Elles se sont battues longtemps et courage à elles. Et j'espère que quand même la situation de certaines femmes de chambre vont changer. Du coup, dans la deuxième actualité, les chants racistes contre Lukaku à Caligari ne seront pas sanctionnés. Les supporters du club de Sarre avaient proféré des cris de singe avant une pénalité tirée par le Belge. Voilà, dans le titre, tout est dit. Donc, ça ne sera pas sanctionné. Bon, c'est malheureusement assez souvent. Et par ailleurs, ça fait basculer par rapport à l'actualité de Lilian Thuram. Le fait qu'il ait dénoncé ses actes font en fait que on l'a traité de raciste anti-blanc. C'est quand même aberrant. Imaginons, quelqu'un se fait frapper et dit « Ah, je me suis fait frapper », on lui dit « Tu es contre les frappeurs ?» Bon, du coup, quelque part, tu es violent parce que tu es contre les frappeurs. Bon, ça n'a pas de sens. Et évidemment, il faut encore le rappeler, et je le rappellerai encore et encore, le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est comme le sexisme anti-homme. Ça n'a pas de sens. Je vais mettre un extrait vidéo, justement, d'un humoriste qui plaisante par rapport à ça, et on écoutera par la suite un extrait de But, où Lilian Thuram parle justement de ce qu'il a dit, tout simplement, qu'on est dans une histoire, il y a eu la colonisation, encore aujourd'hui on se trouve dans un état de... on se retrouve dans un truc de néocolonisation, de néocolonialisme. De colonialisme, des Noirs sont victimes d'esclavage au Maghreb, des Noirs meurent dans la Méditerranée, et l'Afrique reste encore malheureusement une ressource d'hommes noirs, de femmes, et d'ailleurs c'est aussi le cas avec l'hôtel NH, on voit le lien qui peut avoir entre les deux. Donc c'était une vidéo, un extrait de un Negro News que je vais vous diffuser.
Lilian, je pense que moi je suis pas d'accord avec la manière dont tu l'as dit. La manière, parce que tu sais très bien, quand tu es un homme noir en France, faut le dire en zoukant ou en dansant, en chantant. Si tu avais dit les blancs se croient supérieurs, avec VG Dream d'ailleurs, ils se pensent aussi supérieurs. On est ensemble.
Les blancs se croient supérieurs. Les blancs se croient supérieurs.
Ils se pensent aussi supérieurs.
Les blancs se croient supérieurs.
Du coup, c'était un extrait d'un humoriste qui s'appelle Lenny Mbunga. Oui, Mbunga plutôt. Désolée pour la prononciation approximative. Du coup, je vais diffuser l'extrait de Lilian Thuram qui parle un peu plus. Qui résume un peu ce qu'il a dit et qui dit qu'il n'y a pas d'amalgame à avoir. Ce qu'il a dit est très très clair, c'est qu'on vit dans une histoire, on ne peut pas faire comme si l'histoire n'existait pas et que quand tu veux parler de racisme, tu deviens toi-même, d'un seul coup, tu fais un racisme qui n'existe d'ailleurs pas, donc c'est, ça n'a aucun sens. Donc je vous mets l'extrait de William Thuram de Brut. Et ensuite, on se rejoint avec Marie, qui vient d'arriver. Voilà.
Couleur noire. Parce que lorsque vous êtes une personne de couleur noire, vous pouvez vous faire cracher dessus même à la télévision. Et les autres autour ne disent rien. Zemmour, il serait noir. Il ne pourrait pas tenir ce discours-là. Vous prenez une personne noire, vous le mettez à la télévision, qui tient un discours comme ça sur une personne blanche, cette personne ne reste pas 2 secondes à la télé. C'est ça la réalité. En plus, lorsque vous êtes humilié en tant que personne noire, on vous demande d'accepter. Si jamais vous revendiquez et vous dénoncez, on ne vous comprend pas. On finit par croire que vous avez un problème, vous. C'est extrêmement triste, mais c'est la société dans laquelle nous vivons. Et vous savez que lorsque vous êtes une personne noire, vous avez déjà intégré depuis très longtemps que vous vivez dans ce monde-là. Parce que c'est ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte. Quand vous êtes une femme, je pense que vous avez intégré aussi que peut-être que vous allez dire quelque chose, on ne va pas vous prendre au sérieux comme on prendrait au sérieux un homme. Parce qu'en fait, ceux qui sont dominés sont conscients de cette domination. Mais lorsque vous le dénoncez, ben, quelque part, vous n'êtes pas bien compris, on vous prend pour un rebelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous demande de changer. Je pense que toute personne blanche devrait se réfléchir à savoir, est-ce que parfois, je ne réfléchis pas comme une personne blanche.
Voilà, c'est ça. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc, on va accueillir Marie. Marie, qui fait partie de l'association Les Putains de Guerrières. Mais avant de parler avec Marie, on va mettre un extrait justement de la créatrice de l'association. La créatrice de l'association. Et du coup, oui.
Clémence, elle s'appelle.
Clémence, elle s'appelle. Oui. Du coup, Marie vient de nous rejoindre. Et du coup, je mets la vidéo en question. En espérant que ça marche. Mais normalement, ça va marcher. Je croise les doigts.
Je suis devenue isolée, c'est juste pas la clé. Il y a des signes qui trompent pas. Je suis devenue agressive, je suis devenue triste, je suis devenue isolée, c'est juste pas la Clémence que j'ai pu être. Et il y a des gens qui auraient pu s'en apercevoir et qui auraient dû faire des choses et qui ne l'ont pas fait.
Tes proches.
Ouais. Et quand on a crié ces derniers jours de violence chez nous, on avait des voisins, on avait des fenêtres ouvertes, personne n'a appelé les gendarmes. Ce n'est pas normal.
C'est la première fois. Hein, donc.
En 2017, aujourd'hui, on doit faire confiance aux femmes quand elles... ne montre ne serait-ce qu'un tout petit signe de ce qui se passe à la maison. Il faut faire les choses. On peut pas laisser. Et aussi pour dire à toutes celles, j'espère, qui voient l'émission aujourd'hui, parce que croyez-moi qu'ils sont très malins, et quand il y a ce genre d'émission, la télé, elle est coupée, mais peut-être leurs entourages, leurs amis vont voir cette émission. Allez les chercher. Faites quelque chose pour elles. Dites-leur qu'il y a des solutions, parce qu'il y a un après. Il faut se battre fort. On se sent très souvent très seul, parce que peu de gens peuvent comprendre ce qu'on peut vivre, mais il y a un après. Je ne veux plus jamais entendre la question de « Pourquoi tu n'es pas partie la première fois ? Si tu es restée, c'est que tu aimes ça. » Ou de nous voir comme si on était des femmes faibles. Parce que moi, je peux vous dire qu'on est tout l'inverse que des femmes faibles. Parce que pour avoir supporté... pour supporter autant que ce qu'on a supporté derrière nos portes sans que personne le sache, sans broncher, quand on nous dit qu'on ne protège pas nos enfants. Si, justement, quand on accepte toutes ces violences, c'est qu'on protège nos gosses. Et qu'ensuite, il faut faire face au jugement et au regard de toutes les personnes qu'il y a derrière. Je peux vous dire qu'on n'est pas faible et qu'on est des putains de guerrières et qu'on a juste besoin d'un peu plus d'aide.
Merci pour tout ça.
Donc voilà, c'était Clémence. Justement, Marie, est-ce que tu veux nous parler un peu de votre action et du 12 ?
Alors, bonjour déjà à tout le monde. Je suis Marie, je suis la référente sud-est dans la région PACA de l'association Putain de Guerrière, comme vous l'avez pu l'entendre, qui a été créée en 2017 par une jeune femme remarquable, comme vous l'avez pu l'entendre aussi, qui s'appelle Clémence, qui l'a créée à l'issue de son passage aux télé, qui, je pense, a marqué pas mal de monde, vu le nombre de messages et le nombre de soutiens reçus depuis. et qui ensuite en 2019 a laissé sa place à Caroline, qui est une femme remarquable. Et Caroline en fait a repéré des personnes qui étaient assez impliquées sur la page Facebook, parce que ça démarrait par une page Facebook, et ensuite sur d'autres réseaux, et qui à partir de là a nommé 6 référentes sur toute la France. Donc je vais permettre de les citer avant de vous expliquer l'action. Donc il y a Adeline qui est en Ile-de-France, Adela Hyde qui était à Toulouse mais qui est en Ile-de-France actuellement, Khadija qui est à Nantes, Caroline II, je vais l'appeler comme ça, qui est en Normandie, moi qui suis donc PACA, Caroline, la fondatrice, la présidente pardon, de l'association qui est à Annecy, et Clémence qui est à Bourg-en-Bresse, qui est restée quand même référente. Voilà, donc on essaye d'alerter, mettre en place des actions, de sensibiliser les pouvoirs publics, les institutions sur ce mal qui existe, ce fléau qui est la violence conjugale, les violences intrafamiliales, que beaucoup, beaucoup de femmes, et puis minoritairement des hommes, mais beaucoup de femmes subissent au quotidien. Donc c'est pour dénoncer. Et effectivement, on a des petites actions, des actions coup de poing qu'on fait, et donc il y a le rassemblement du 12 octobre.
D'accord, ok. Et c'est vraiment chouette de faire ça parce que les pouvoirs publics, on a l'impression qu'ils ont un peu abandonné quoi, le combat.
Ils ont abandonné, on va dire oui et non. C'est juste qu'en fait, il y a un armada, tout un armada juridique qui existe mais qui n'est pas appliqué en fait. Il y a, que ce soit la justice, que ce soit la police, il y a pas assez de formation sur ces questions-là, sur ce fléau-là. Donc aujourd'hui, voilà, notre association et puis d'autres, on est plus récents et puis d'autres plus anciennes dénoncent tout le temps ce manque de formation qu'ont les policiers, puisque aujourd'hui, normalement, quand il y a une femme qui se rend dans un commissariat, quand elle s'arme de courage pour aller dans un commissariat, elle devrait normalement être reçue et porter plainte, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est très très disparate. Des fois on peut tomber sur des commissaires qui seront, on va dire, ou des gendarmes qui seront à l'écoute de cette personne et elle pourra déposer plainte. Des fois, on va dire dans la majorité, elle ne peut poser qu'une main courante alors qu'il y a un article de loi qui existe. Au niveau de la justice, c'est pareil. Il n'y a pas de différenciation sur l'armada, sur le juridique, puisque même si quelqu'un est condamné, le civil et le civil et le pénal ne sont pas associés. Ce qui fait qu'un bourreau peut se retrouver à avoir une garde alternée ou une droit de visite classique, alors que il y a un problème, on va dire, intrafamilial. Donc, il y a un Grenelle qui est lancé des violences conjugales. C'est qu'il y a une prise en compte. Et une prise de conscience. Mais au-delà de ce Grenelle, il y a des choses qui doivent être faites et c'est ce que nous dénonçons. C'est pour ça qu'on parle, parce que voilà, on parle pour celles qui sont parties malheureusement, puisque depuis le début de l'année, là, le décompte aujourd'hui est à 111. L'année dernière, elles étaient à 120, là, 111, donc ça veut dire que ça risque de gonfler. On parle pour celles qui ne peuvent pas parler parce qu'elles sont encore là, et on parle aussi pour celles qui ont pris ce courage-là de partir et qui se retrouvent dans un tourbillon, parce que c'est le mot en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un tourbillon quand elles décident de dénoncer ça. Et après, il y a toute la partie reconstruction aussi. Donc nous, on aide à la mise en sécurité, on aide à ce que la personne puisse partir et puisse être en sécurité. Mais après, il y a toute une partie reconstruction et puis il y a d'autres projets qu'on aimerait mener. Mais c'est un combat difficile. Voilà, c'est un combat difficile, mais je pense qu'il est nécessaire. Après, ce qui fait la différence aussi avec l'association sur d'autres associations, c'est que la plupart, on va dire, de l'équipe sont des anciennes victimes et aussi des bénévoles et qui ont également été prises dans ce tourbillon juridique, policier, social, tout, parce qu'il y a énormément de choses à faire pour aider ces femmes-là. Voilà.
D'accord. Ben merci d'être venu alors que justement tu es bénévole, du coup tu travaillais, oui, et ça n'a pas été évident pour toi d'être là. C'est sûr. Merci beaucoup et de prendre aussi du temps comme ça, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est de l'énergie, c'est.
C'est beaucoup d'énergie, on a des journées, on aimerait que les journées soient plus longues et on n'y arrive pas en fait. Les journées sont trop courtes pour nous, parce que moi au-delà de mon travail, parce que je suis gestionnaire RH dans une association, et donc qui travaille avec des jeunes en situation de précarité, avec des personnes, avec des foyers, etc. Donc, bon, je ne peux pas trop m'étaler, mais voilà, je travaille pour cette association-là, pardon. Et donc, moi, après la fin de ma journée, voilà, je regarde, je ziote, on va dire, si on a des messages, s'il y a des choses urgentes à faire. Et par rapport à ma mission plutôt chez Putain de Guerrière, c'est vrai, je réponds aux messages, mais j'ai aussi un travail, on va dire, administratif, parce que je suis secrétaire. Donc, j'en appelle, effectivement, j'envoie des mails, j'en appelle à la générosité, à essayer de faire communiquer. On s'est fait connaître par via les réseaux sociaux, donc il y a Twitter, il y a Instagram, il y a la page Facebook. On a des personnes qui nous soutiennent, mais voilà, c'est un soutien qui est en région parisienne et on espère qu'il pourra s'étendre aussi sur toutes les autres régions. Mais oui, c'est un gros boulot et je suis maman de 2-3 enfants aussi, donc c'est pas forcément évident à concilier tout ça. Mmh. Mais je prends le temps de le concilier parce que pour moi, ce combat, il est nécessaire. Quand Clémence est passée et qu'elle a poussé ce cri d'alarme à la télé, j'étais en congé maternité à cette époque et ça m'a fait un boom en fait. Je me suis dit, mais en fait, il y a un sujet qui est là, personne n'en parle. Si on en parle deux fois dans l'année, ça devrait être tout le temps en fait. Mais c'est pas quand qu'on n'en parle pas, c'est que les médias en fait, ça arrivait tout le temps, mais on n'en parlait pas forcément. Maintenant, les langues se sont déliées depuis qu'il y a eu MeToo, depuis qu'il y a eu Balance ton port. Il y a eu des choses qui se sont déliées. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait un vrai choc. Et je me suis dit, en fait, je cherchais en fait un engagement. J'étais à un moment de ma vie dans un questionnement en me disant, en travaillant depuis un an et demi dans cette association, en me disant, est-ce que j'aimerais pas peut-être passer de l'autre côté sur l'action sociale et tout ça. Je me posais des questions. Et c'est vrai que c'est arrivé et puis voilà. Et donc, par rapport à ça, j'ai décidé effectivement de m'engager. Donc, j'ai eu un premier échange avec Clémence et ensuite avec Caroline, avec toutes les autres référentes qu'on sait au téléphone, on va dire, assez régulièrement. Et donc, effectivement, on a décidé d'un commun accord et d'aller plus fort. Voilà, parce qu'il y a eu des événements. On a eu Adeline, par exemple, son ex-conjoint a été libéré. Après 2 ans de prison, alors qu'il l'avait laissée pour morte. Donc, on a eu, voilà, il y a eu des coups de poing comme ça. On a Adélaïde, qui est une femme géniale, qui est dans une situation très compliquée, qui a dû fuir, etc. On a Khadija, pareil, qui se bat contre une maladie, qui se bat pour ses enfants sont en sécurité. Voilà, c'est toutes des battantes, en fait. Et on va se retrouver avec elle, c'est vraiment un souffle, en fait. Ça nous insuffle. Et au final, ben, on décide, on mène des actions, on mène des choses. Et voilà. Donc, c'est pour cela, j'avais fait un rassemblement le 14 septembre. Qui était le premier démarrage en fait des rassemblements. C'est des hommages en fait, on ne fait pas de marche, c'est juste des hommages. On se rassemble, on laisse parler les personnes qui viennent, on a un vrai moment d'échange et de partage avec des personnes qui de tout horizon, soit des anciennes victimes, soit voilà, de tout horizon, qui peuvent être sensibilisées par la cause. Donc là vraiment, j'ai décroché, merci en tout cas, Erika. Et aussi, merci à Fatima, si tu m'entends. Oui. Fatima, je t'adore. Tu es ma sœur de cœur et je t'adore très fort. Merci à Fatima qui m'a permis effectivement de te connaître, Erika, et d'appeler vraiment une mobilisation pour le 12 octobre. Donc, ça se passera à la place de la Joliette. Donc, ça sera de 14h à 15h30. C'est un moment d'échange, de partage, où effectivement, on va se rassembler pour ne pas oublier ces femmes-là et pour essayer de trouver des solutions également. Et puis, cette association, pour l'instant, donc on n'est pas encore d'utilité publique parce qu'on est très récent. Donc, on fonctionne uniquement par des dons, par des adhésions. Et donc, j'en appelle également à la générosité aux personnes. Si elles souhaitent adhérer, elles le peuvent. Et si elles souhaitent donner aussi, elles le peuvent. Donc, il y a une page Facebook qui s'appelle littéralement Putain de Guerrière, comme ça se prononce. Et on peut voilà, y aller dessus et puis nous contacter via la messagerie pour effectivement adhérer, être sensibilisés, nous aider sur l'organisation, puisqu'on est toutes des mamans qui travaillent, qui font des vies à côté de ça. Donc on a besoin de temps, il n'y a pas assez de temps, on va dire, et donc de l'aide, voilà, on n'en demande pas mieux. Exactement.
D'accord. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour vraiment faire une émission spéciale sur les féminicides. Et aussi, comme tu dis, ça serait bien qu'on en parle plus que 2 fois par an, le 8 mars et le 25 novembre. Ça serait vraiment, vu l'ampleur que c'est,
puisque depuis le début de l'année, on en est à 111 quand même, et que c'est un chiffre qui est croissant. Il y a eu l'annonce du Grenelle qui a été faite. Cette annonce-là, elle a été faite, peut-être qu'elle a été préparée, je ne sais pas, mais il y a eu une action coup de poing à Paris avec un collectif qui s'appelle Plus Jamais Ça, qui est dirigé par Noël et par Céline, qui sont sur Paris, et qui ont lancé cette initiative, qui ont fait appel à d'autres associations, dont la Fondation des Femmes, et il y a eu une vraie prise de conscience, puisqu'il y a eu même Muriel Robin, qui est très attachée à cette cause, puisqu'elle a tourné un film qui a marqué tout le monde, qui est Jacqueline Sauvage, et qui, à partir de là, s'est engagée. Clémence avait marché avec elle le 6 octobre 2018, et là, elle a été présente le 6 juillet 2019, et elle a lancé une phrase c'est 2-3 mots, mais ça a été un impact vraiment important. C'est demander à notre président de la République, à M. Macron, combien coûte la vie d'une femme, en fait, en France. Mmh. Parce que il y a des lois, il y a des choses qui existent. Mais pourquoi ces lois-là ne sont pas appliquées? Pourquoi ne pas faire en sorte que ça soit appliqué? Pourquoi M. Castaner ne fait pas une sorte de rappel à tous ses préfets en leur disant que quand une femme pousse la porte d'un commissariat, elle porte plainte, point barre. Pourquoi c'est elles qui doivent partir? Pourquoi quand elles partent, effectivement, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'hébergement, les hébergements, il n'y en a pas assez. Donc alerter, nous, on alerte tous ces politiques-là, on est entendu ou pas, ça dépend des degrés, mais on alerte quand même et on essaye vraiment de pointer du doigt quelque chose. Et il n'y a pas que ça, après il y a la reconstruction derrière, on aimerait, enfin, moi personnellement j'aimerais mener un projet pour essayer d'aider ces femmes à se reconstruire. Parce que quand elles partent, elles laissent une maison, elles laissent un travail, elles ont des enfants sous les bras. Des fois, elles se retrouvent dans une vie qu'elles ne connaissent pas. Elles sont suivies parce qu'heureusement qu'il y a des structures, il y a des centres de communauté d'action sociale, il y a des maisons départementales, il y a plein de choses, des associations qui peuvent aider ces femmes-là, mais qui n'ont pas accès de moyens. Et quand c'est comme ça, elles se retrouvent dans une ville inconnue ou pas, où on ne sait pas trop en fonction des histoires, il n'y a rien pour les aider à vraiment... pouvoir faire garder leurs enfants, par exemple, pouvoir aller à un entretien, pouvoir voir un psychologue, pouvoir faire plein de choses. Et rien qu'à Marseille, il n'y a qu'une seule crèche, il y a la Croix-Rouge, mais il y a une crèche à vocation insertion professionnelle pour des familles monoparentales, il n'y en a qu'une seule dans le 13e. C'est pas normal. Et c'est des projets qui sont lancés, il y a des appels à projets, des choses qui sont lancées. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de prise de conscience vraiment de l'opinion publique, des institutions, des politiques, pour se dire que vraiment on est face à un vrai problème de société et qu'il faut en parler, qu'il faut mettre des choses sur la table, mettre de l'argent sur la table. Voilà. Oui. Mettre de l'argent sur la table, parce qu'aujourd'hui, Marlène Schiappa a lancé un fonds Catherine, d'un million, c'est parce qu'il est demandé, c'est pour ça que certaines féministes se sont soulevées. Je fais un clin d'œil à une féministe que je connais, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sophia, qui avec Marguerite sont lancées dans le collage, des actions de collage pour montrer que non, on veut pas des miettes, on veut qu'il y ait un milliard qui soit posé, puisque c'est une évaluation qui a été faite par l'Observatoire d'égalité hommes et femmes, qu'il faut au moins 570 millions, ça veut dire un milliard. Aujourd'hui, ce qui est demandé à nos institutions, c'est de poser ces 1 milliard. Et ils ne les posent pas. À l'issue du Grenelle, on espère qu'il y a des choses qui vont évoluer, mais on attend de voir.
Bon, j'espère que ça va évoluer et que ça sera plus que 1 million quand même, parce que franchement, c'est un peu du... Il rigole un peu de nous quand même, je pense.
Il rigole un peu beaucoup de nous.
Pour ne pas rigole, dire autre chose.
Il rigole un peu beaucoup de nous. Après, moi, je crache pas sur la soupe. Je veux dire qu'il y a quand même des choses qui ont été faites par des politiques, mais ce n'est pas assez. Il y a un député, là, actuellement, Aurélien Pradier, qui a fait une loi remarquable, qui est en train d'essayer de faire évoluer les choses. Je suis ni de gauche, ni de droite, ni de centre, ni Macron. Je suis apolitique, mais vraiment. Mais quand on parle de cette question-là, à un moment donné, je prends parole et je prends position parce que je me dis, en fait, il ne faut pas être de gauche et de droite ou de centre ou d'extrême. Enfin, je n'ai même pas envie d'en parler. Mais il ne faut pas être de parti politique ou quoi pour ne pas se dire qu'il faut se saisir de ce sujet-là et en parler et le dénoncer. Et mettre des choses sur la table, demander. Enfin, il y a des gens qui sont vrais, ceux qui sont haut placés, nos institutions devraient écouter. Et on a l'impression qu'en fait, même les anciennes victimes, quand elles osent dénoncer, elles ne sont pas écoutées. C'est ces personnes-là qui devraient être écoutées. Au tout début, quand ils ont lancé le Grenelle, les anciennes victimes, elles n'ont pas été conviées. Certaines, oui, peut-être, mais pas toutes. Enfin, pas toutes, on ne peut pas convier tout le monde. Mais les anciennes victimes n'étaient pas forcément écoutées. Ensuite, elle a mis en place la journée porte ouverte, c'est très bien. Mais ces anciennes victimes-là, celles qui ont vraiment été prises dans ce tourbillon, elles doivent être entendues parce que c'est elles qui connaissent. Comme je dis, je crache pas sur la soupe. Les travailleurs sociaux, les éducateurs, les personnes qui sont dans des structures d'association, elles font un très très bon travail.
Je suis d'accord avec toi.
Mais il y a aussi les anciennes victimes qui, elles aussi, comme on les appelle des travailleurs pères. C'est une collègue à moi qui m'a parlé de ce terme-là, les travailleurs pères. Eh bien, nous, on est les travailleurs pères.
Bah oui, les personnes qui sont concernées parce qu'ils défendent.
On est concernés parce qu'on défend. Et à partir de là, les travailleurs pères, ben, on aimerait être entendus aussi.
En tout cas, j'espère que ça va se faire. Et je suis vraiment désolée, on a pris un peu de retard.
Ah oui,
il n'y
a pas de souci. Et moi, je parle trop. Hein, quand je suis lancée, je ne m'arrête plus après.
Mais non. Mais non. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir aujourd'hui et justement de partager cette émission avec toi.
Mais merci à toi de m'avoir accueilli.
Et tu peux revenir quand tu veux, avec de nouvelles actualités. J'aimerais vraiment faire une émission entière sur justement... sur les femmes, sur les violences faites aux femmes.
J'ai envie de te dire, on peut prendre rendez-vous dès maintenant, puisqu'il va bientôt avoir le 25 novembre, et que s'il faut qu'on vienne en parler, qu'il y ait une émission complète, moi je te dis ok de suite.
D'accord, on fait ça. On va faire une courte pause musicale avec Aya Nakamura, et ensuite je te ferai un petit au revoir, et ensuite je mettrai l'interview.
Ok, merci.
Je t'en prie.
On s'est rencontrés, j'avais pas lové. J'avais tous les mecs sur le bas côté. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je suis ok. Traité-tu de base, t'as adouci le bail. Comment faire, je deviens tête en l'air. J'ai plus le contrôle. Traité-tu de base, comment faire, je deviens tête en l'air. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Ah oui, ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, 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 la dot. Bébé veut un gosse. Depuis ta venue, j'ai changé. À la Bonnie and Clyde, t'es validé. Tapé dans le mille de mon cœur. Je finis la vie d'avec toi. Suis-moi, tu verras. Ça deviendra illégal. Toi et moi, en bagaille. Et confiant, je suis là pour toi. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour.
Donc on revient justement à Aya Nakamura parce qu'il y a aussi l'histoire avec Niska, comme vous savez sans doute ou peut-être pas, mais de violence et tout parce qu'ils sont sortis ensemble et selon certaines affirmations, en tout cas, il y aurait eu des violences conjugales. Et du coup c'est pour ça que je voulais aussi mettre cette chanson. Voilà, c'est de la pop, mais c'est de la pop avec des artistes qu'on voit pas souvent, des femmes noires comme ça, foncées de peau, c'est un peu rare, pour ne pas dire beaucoup. Donc, je reviens avec Marie qui va nous faire un petit au revoir.
Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir entendu tous. Merci à toi, Erika, de m'avoir accueilli. J'ai promis que j'allais placer. Normalement, il écoute à mon collègue. Hein. J'ai promis de placer un mot. C'était de lui dire j'ai eu de la chance d'être là. J'étais promis de le placer. Hein. Voilà. Donc, merci beaucoup, Erika. Et puis, moi, le rendez-vous du week-end du 23-24, il est fixé. Il est dans mon agenda. Voilà.
D'accord. OK. Bah, on est là de toute façon. Donc, on se dit rendez-vous le 24 pour une émission spéciale.
D'accord. Très bien.
OK. On fait ça. Merci à toi d'être venu.
Au revoir à tous. Merci.
Du coup, voilà. Maintenant, on va écouter l'interview du collectif Les Filles de Blédard avec Alexia et Mariam. Les Filles de Blédard, c'est un collectif basé entre Paris et Marseille qui propose et explore des réflexions autour des identités de l'immigration avec les arts comme outil. Et du coup, il tente de réunir à travers des expositions, des soirées et d'autres moments encore, des personnes qui leur parlent et puis qui les touchent et qui les font réfléchir. Du coup, un an après la vie active à Paris, les filles de Blédard posent un peu leur valise et à Marseille, dans la capitale mondiale des Blédards et des Blédards, et invitent pour l'occasion le collectif Living Dakota. Donc ce festival s'est déroulé sur 3 jours, le jeudi 29 août, le vendredi 30 et le samedi 31 août. Voilà, la programmation était riche, mais je ne peux pas en parler parce que je suis déjà très très en retard. Une émission qui attend juste après. L'interview dure quand même 40 minutes. Donc voilà, je vous laisse avec elle et avec Célic. Et merci encore d'avoir participé à l'interview et merci à vous de ce que vous faites parce que vous êtes formidable et on a besoin de ça dans ce monde. Un peu de douceur et de tout ça.
On peut se présenter. Moi, je m'appelle Mariam. Je suis dans le collectif Filles de Blédard qu'on a fondé avec Alexia il y a maintenant 1 an et demi. Et moi, à la base, je suis photographe et vidéaste. Et là, on s'est lancé dans ce collectif pour faire plus du commissariat d'expo et organiser des événements vivants où on invite plein de monde. Donc, du cinéma, enfin pluridisciplinaire. Donc il y a aussi des fêtes, du cinéma et des expositions.
Voilà, je peux me présenter aussi. Du coup, c'est Alexia Fiasco. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que Mariam vient de dire, mais oui, voilà, l'idée, c'est de créer des événements pluridisciplinaires. Je pense que dans l'idéal aussi, ce serait de développer un peu plus la partie sociale de ces événements pluridisciplinaires. Et voilà, je rajoute juste aussi que ce collectif, il a été créé avec 2 autres personnes, qui sont Kaina Djemani et Rachida Rosba. Et voilà, et que là, on est toutes les deux à faire ça presque à plein temps. Et voilà, et qu'on est ici à Marseille parce que notre collectif est basé entre Paris et Marseille. Moi, je suis à Paris, Mariam, elle est à Marseille. Et qu'on vient juste de finir 3 jours d'événements intensifs où il y avait donc 1 jour d'exposition autour de la thématique des nouveaux sacrés, 1 jour de projection, toujours autour de la même thématique, et une nuit de grosse fête, pour le coup avec une thématique
de la fête.
De la fête uniquement. Et tout ça, on l'a organisé avec les Living Dakota. Et on a l'un des membres parmi nous, Célic.
Hey. Alors moi c'est Célic, aka Golche d'Abana. J'organise des événements plutôt sur Bruxelles avec ma binôme Célia Loutangou, aka Woutangou. On est venu donc ici à Marseille pour faire cet événement qui était assez intense, comme tu viens de le dire. Et à la base, nous, sur Bruxelles, on s'occupe d'organiser des soirées qui nous permettent de récolter de l'argent pour investir dans des plus gros événements comme on vient de faire ici à Marseille. En gros, c'est un peu le même concept.
Voilà. Vous faites toujours des expositions suivies de fêtes.
On fait aussi des expositions suivies de fêtes, mais... Enfin, nous, notre concept pour les expositions, en gros, c'est d'inviter à chaque fois un collectif qui ne vient pas de Belgique à venir en Belgique. Le collectif en question, il propose la thématique. Et nous, en fait, on se partage la curation entre les deux collectifs. Et notre rôle à nous, principal, c'est de trouver donc... des artistes belges et suisses, parce qu'on est tous les deux suisses, à intégrer la thématique du collectif.
Voilà. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'on s'est vraiment rencontrés. Parce que, en fait, Célia Woutangou, elle fait partie d'un autre collectif qui s'appelle Blédart Collectif, qui est né exactement au même moment que Fille de Blédard, Les personnes se sont rencontrées exactement au même moment que nous on s'est rencontrés, donc c'était un peu l'alignement des étoiles comme ça. Il y a beaucoup de gens qui nous confondaient, et en fait on a fini par prendre contact, et Célia et Célic sont venus à notre toute première soirée de lancement, et ensuite ils nous ont invités et ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs la thématique qu'on avait choisie déjà à l'époque, bon, c'était pas directement nouveau sacré, c'était foi, tradition et nouveau rituel. Et on avait tellement aimé ce qui en était sorti qu'en fait on s'est dit qu'on allait créer qu'on allait lancer un appel à projet autour de cette thématique.
Et qu'on allait faire le match retour à Marseille un peu. Eux, ils nous avaient invités à Bruxelles, puis nous, on les a invités à Marseille sur le même thème, faire un peu la deuxième édition et augmenter, enfin, un peu différemment.
Voilà, c'est ça, avec un peu plus de moyens, mais surtout beaucoup plus d'expérience pour nos collectifs respectifs. Parce que ouais, il s'en est passé des choses en 6 mois pour eux comme pour nous. Et ouais, je voulais juste rebondir sur ce que Célie disait par rapport au fait d'organiser des soirées pour se faire des sous et pour faire des événements comme des expositions, des plus gros trucs comme on est en train de le faire. Ouais, pour nous, on fonctionne aussi sur ce schéma-là. Après, bien sûr, c'est pas que pour faire de l'argent, dans le sens où pour nous, c'est aussi l'occasion de rassembler des gens qui partagent les mêmes intérêts, qui sont concernés par nos problématiques respectives. Et ouais, voilà, créer aussi des lieux d'échange. Et c'est sûr que la fête, au-delà d'être un moyen de se faire des sous, c'est aussi un moyen de rassembler les gens autour de causes et de rester dans le politique, mais
de façon détournée.
Voilà, de façon détournée. Mmh.
Mais c'est aussi surtout que l'argent qui est brassé pendant les soirées, genre, il est directement réinvesti au sein du collectif pour la culture, en fait. Une culture assez alternative, auto-financée, auto-produite, etc. Donc, on a tous des jobs respectifs à côté. Enfin, on douille tous bien, comme il faut.
Ouais. Non, ça, c'est sûr que c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens
d'investissement.
À trouver la balance entre un travail alimentaire, l'énergie qu'on dépense pour organiser tout ça. Ouais.
C'est sûr. Bah, c'est aussi parce que justement, on a une espèce d'éthique où on veut être indépendant et autoproduit. Donc pour le moment, on va dire on a des modèles économiques qui ne marchent pas très bien, mais qui nous permettent de faire tout ce qu'on veut sans restriction, avec pas de personnes au-dessus qui vont nous obligés à intégrer telle ou telle personne ou tel facteur dans ce qu'on fait. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc ça, c'est aussi le bon côté de ne pas avoir beaucoup de sous et puis de se débrouiller.
Ouais. Et puis après aussi, autant Living Dakota que Fille de Blédard, je pense que nous, on est prêts à investir aussi dans nos artistes, quitte à pas forcément se rémunérer ou... parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, quoi.
Mmh. C'est quelque chose qu'on ne fait pas pour le moment. On espère que peut-être
Peut-être un jour, mais en tout cas, nous, l'idée, c'est vraiment aussi de proposer des artistes à un public qui n'a pas forcément beaucoup de sous. Essayer en tout cas de toujours proposer le meilleur, quoi.
Et de rémunérer les artistes ou de leur permettre de venir. Ou leur permettre de produire, en fait. C'est aussi proposer une organisation du travail. En tout cas, à part nous, personne ne se fera exploiter.
Grave. Ouais, on est vraiment dans une idée de promouvoir les artistes de manière sympa et correcte. Genre vraiment.
Ouais, et c'est important. Je pense que...
Ouais, ça fait partie des piliers de la façon dont on travaille, et c'est pour ça qu'on s'entend bien avec les Living Dakotas, parce qu'on a un peu la même charte, on va dire, quoi. Bien rémunérer les artistes, leur permettre de faire les choses comme ils veulent, les écouter, et puis proposer aussi des line-up ou des sélections de gens qui sont concernés par des problématiques à la fois des cultures alternatives ou des émigrations... Ou de la culture queer, et de leur laisser la parole sans restriction et comme ils veulent. Enfin, de eux être au centre et nous, enfin voilà, que n'y ait pas des personnes non concernées qui soient dans le commissariat. C'était ça aussi qui nous intéressait.
Et du coup, alors, comment vous êtes venu justement cette idée? C'est quelle était la chronologie?
Moi, je peux répondre personnellement.
Ouais. Juste, tu parles de l'idée de monter le collectif, enfin de nos collectifs respectifs.
Oui, c'est okay. ça. L'idée ou même le cheminement qui vous okay. a amené à faire tout ça aujourd'hui. Mmh. Il y a eu des rencontres, comme j'ai pu voir avec Living Dakota, mais avant ça, souvent on a envie de faire des choses, mais on n'ose pas se lancer.
Ouais.
Et du coup, vous, comment vous avez. Du moins, voilà, le cheminement.
Ouais. Ouais. Bah, moi, personnellement, ça vient de mon expérience en photo. Ça faisait quand même 10-15 ans que je faisais de la photo un peu dans mon coin. Puis je trouvais pas trop d'autres personnes qui partageaient cette envie d'avoir des problématiques politiques dans l'art. Ou alors, pas de la même façon, vraiment, dans le truc militant, décolonial, féministe, à la fois avec des pratiques artistiques qui parlent pas directement de ça, mais de façon détournée qui en parlent. Et donc j'étais un peu toute seule et... J'arrivais pas à trouver des endroits où j'avais envie d'être exposée ou me faire exposer, des choses comme ça. Puis, en traînant à Marseille, j'ai vu qu'il y avait quand même des personnes qui faisaient ça, dont des personnes qui organisaient un festival qui s'appelle Intersection, qui m'ont invitée, qui m'ont fait me rendre compte qu'à plusieurs, on pouvait créer des choses et se faire de l'espace. En fait, le but, c'était... Enfin, il y a un moment où je suis arrivée dans ma réflexion à me dire, en fait, s'il y a personne qui m'invite nulle part... ou personne qui valorise mon travail nulle part, c'est peut-être pas moi qui fais forcément de la merde, parce que l'art, de toute façon, c'est très subjectif. C'est peut-être juste que toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui ne sont pas du tout concernées parce que j'essaye de développer, quoi. Donc, en parlant avec des amis et tout, on m'a dit, tiens, tu devrais rencontrer Alexia Fiasco, parce que peut-être vous avez des choses à vous dire. Elle aussi, elle est photographe, elle aussi, elle explore ces problématiques-là de... enfants d'immigrés coloniaux et tout, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'avoir des personnalités multiples, d'être de plusieurs milieux sociaux et puis d'essayer de s'intégrer dans ce milieu de l'art qui est quand même grave tenu par des gens blancs, cis, hétéros, plus de cinquantenaires, privilégiés, riches et tout, qui est donc du coup pas du tout nous, on coche aucune de ces cases. Puis moi je suis partie au Maroc 2 mois toute seule, ça c'est mon histoire personnelle, pour la première fois de ma vie je suis allée dans ma famille au Maroc toute seule. Et puis j'ai décidé de filmer et tout ça. Puis au Maroc, j'ai parlé avec Alexia sur Internet. Puis elle était au Cap-Vert parce que son père est capverdien. Puis c'était la première fois qu'elle y allait toute seule aussi. Et c'était la première fois qu'elle y allait rencontrer sa famille. Puis du coup, on se parlait. Moi, j'étais au Maroc, elle était au Cap-Vert. Et puis en fait, on se rendait compte que... On disait, mais ça, c'est intéressant quand même, nos histoires. Pourquoi il n'y a personne qui s'intéresse à ça? Viens, on va faire des choses ensemble. Et du coup, après, on est revenu en France. Puis on s'est parlé. Puis là, on s'est dit, mais en fait, on va faire une expo et on va faire une expo avec que des gens concernés qui parlent de ça dans leurs arts, quoi. Et du coup, on a dit, on est des filles de Blédard. Ouais, vas-y, filles de Blédard, ça va être le nom de l'expo. Et puis là, on a réfléchi à cette expo. Puis on s'est dit, on n'est que trois parce qu'il y avait Kaina Djimani à l'époque qui, elle, fait plutôt de la performance et des harnais autour de l'imagerie un peu BDSM et détourne ça. Avec le fantasme de la soubrette maghrébine. Donc, elle mélange ces choses-là, c'est vachement iconoclaste. Tout d'un coup, on se dit, ça nous parle. Donc, on a voulu faire ça toutes les trois. Puis, on s'est dit, mais on va inviter lui et puis elle, parce qu'ils parlent aussi de ça dans leur boulot. Et donc, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas du commissariat? Parce qu'il n'y a pas de lieu qui veut nous accueillir, puis il n'y a pas de commissaires qui sont intéressés par ça. Et même s'ils étaient intéressés, s'ils ne sont pas concernés, nous, on ne veut pas bosser avec eux. Du coup, on a dit, on va faire notre propre truc. Pour pouvoir faire ce qu'on veut, puis inviter les gens qui nous semblent importants, puis qui ne semblent pas forcément importants à d'autres. Et en fait, on s'est lancé, quoi. Et donc, on a fait une soirée, parce qu'on a aussi plein d'amis dans la musique qui sont, qui partagent ces idées politiques. Du coup, on les a invités, on a fait des soirées, et après, on a dit, vas-y, on va faire la première expo. Et puis, en fait, on a rencontré de plus en plus de gens qui s'est passionné. Et donc, en fait, ça, on a tiré un fil, et puis là, bam, 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 il y a eu plein de rencontres. Sur Paris, parce qu'on a commencé sur Paris. Et puis, on a rencontré le collectif Shkounizit, qui sont des Parisiens de la rue pur jus, et en même temps, qui sont rentrés dans des milieux de la mode et de la culture. Du coup, qui sont vraiment des hybrides aussi. Ils voyagent entre plusieurs univers sociaux, entre guillemets. Et eux, même si on était tous pas pros, on s'est dit, vas-y, on va monter un festival pluridisciplinaire, je sais pas ce qu'il nous a pris. Il y a main-d'œuvre à Saint-Ouen qui nous a suivis malgré le fait qu'ils soient à moitié en faillite. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Et donc, avec moins de 10 000 euros, on a mis ça sur la table. Il y avait 50 artistes. Il y avait du théâtre, du cinéma, des débats, une exposition, bien sûr. Il y avait de la performance. Ça, c'était juste la journée. Puis le soir, il y avait des teufs jusqu'à 7 heures du matin. Puis le deuxième soir, on a carrément fait deux teufs dans deux endroits différents. Enfin, c'était un peu décadent. En fait, on s'est un peu surestimé. On a réussi au final. On a créé un monstre. On était 8. Puis on a fait des burn-out à différents niveaux, tous. Puis heureusement, il y avait une main-d'œuvre qui nous a apporté la régie technique et puis leur savoir-faire. Pour le coup, c'était vraiment des alliés. Et là, on a trouvé aussi, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des alliés dans le milieu institutionnel ou subventionné et qu'il y avait certaines personnes qui étaient prêtes à nous aider et tout. Et donc, ça nous a un peu donné espoir aussi. Et donc, on a fait ça, ça a été un tourbillon. On s'est pris plein de claques, rien. Enfin, c'était pas parfait, mais en fait, c'était honnête quoi, comme moment. Et ça a fait venir beaucoup de monde, ça a bien marché. Et surtout, ça a permis à plein de gens de se rencontrer. Et en fait, ça, pour moi, c'était le plus beau, c'est que voilà, on a donné une plateforme à plein de gens pour à la fois s'exprimer ou se rencontrer. Mmh. Du coup, on s'est usé, on a perdu 10 ans de vie et en même temps, on a appris énormément de choses. Vraiment, on a appris beaucoup sur l'organisation, la logistique et l'accueil, le partage entre les gens et tout ça. Puis ça nous a lancé. Après, on s'est dit, en fait, c'est gravement possible de le faire et ça intéresse plein de gens. Puis ça connecte plein de gens, enfin... Moi, rien que le fait qu'à Paris, il y a du monde qui soit monté de Marseille juste pour voir. Il ne m'avait même pas dit, je l'ai croisé là-dedans. Il me disait, oui, bien sûr, je suis venue. Et j'étais là, waouh, incroyable, je ne pensais pas que ça pouvait être légitime. En fait, c'est ça, ça part d'un sentiment d'illégitimité, moi, dans ma propre vie. Où, moi, je suis franco-marocaine. Quand j'étais plus jeune, à 17-18 ans, des fois, je ne me sentais ni française ni marocaine, ni légitime à être arabe, ni légitime à être française, ni légitime à rien, à faire de l'art. Je me disais, non, regarde ce mec hétéro là qui a réussi... l'école d'art, qui a eu sa bourse juste après, si moi j'ai pas eu ça, ça veut dire que je suis nulle, donc j'ai pas le droit de faire des trucs, mais en fait après j'ai compris que c'était plus le système qui avait pas envie de me valider, parce que, je sais pas, ils ont peur du grand remplacement, et on l'a fait par nous-mêmes, mais en fait ça arrive, et tant pis pour ceux qui restent dans les rails, entre guillemets. Donc ça c'était pour moi, c'était ça le cheminement.
Pour moi, c'est un peu comme Mariam. Après, moi, si je parle dans mon expérience personnelle, il y avait déjà cette idée d'avoir l'impression de jamais me sentir légitime où je sois. Et ensuite, moi, j'ai travaillé dans le social beaucoup. J'étais médiatrice culturelle pendant 2 ans pour une association qui s'appelle l'A7 93, qui est pour la scolarisation des enfants roms qui vivent dans les bidonvilles du 93. Donc là, en fait, je me retrouvais avec clairement le peuple le plus discriminé de France, d'Europe, voire du monde, quoi. Enfin, c'est vraiment un peuple extrêmement discriminé, où en fait, moi, mon rôle, c'était de les intégrer, enfin, de les intégrer, entre guillemets, hein, dans la société française, mais en prenant comme outil l'art. Et en fait, je me suis rendu compte du pouvoir de la culture, du pouvoir de l'art dans l'intégration. Et je me suis rendu compte que ça marchait, alors que clairement, on était dans des bidonvilles, on était avec des gens qui ne parlaient pas français, on était avec des gens qui avaient peur d'être scolarisés. Et même moi, ayant grandi dans des quartiers très, très populaires de la banlieue parisienne, en 93, Saint-Denis, etc., aller dans des structures culturelles et associatives, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie et qui m'a ouverte au dessin et donc plus tard à la photo, pouvoir aller au cinéma avec 1 euro ou faire plein d'ateliers divers et variés. Je me suis vraiment rendu compte, et j'en serai toujours reconnaissant, cette structure culturelle, elle s'appelait le Phare à l'époque. Et déjà, moi, je sais que depuis toute petite, je m'étais dit... Enfin, j'ai très vite compris que j'avais eu ces outils grâce à des structures comme celle-ci. Et très vite, je me suis dit, en fait, ce serait vraiment trop bien que j'arrive à faire du social, par la culture, quoi. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette structure. Puis ensuite, je suis partie vivre à Berlin pendant 4 ans. Où j'ai appris aussi plein de choses. Je me suis ouverte à un autre monde qui n'était pas du tout le mien à la base. Et j'ai commencé un peu à souffrir du manque de réelle mixité à Berlin, même si c'est une ville super ouverte sur le monde, blablabla. Au final, on est quand même une élite culturelle principalement blanche pour Berlin, qui vient certes du monde entier, mais complètement fermée sur plein de choses, quoi. Et donc, quand j'ai dû revenir à Paris pour des raisons personnelles, au bout de 4 ans, et là, je me suis rendu compte aussi de cette mixité qu'on avait à Paris, qu'on retrouve aussi vachement à Marseille. Il y avait le monde de l'art contemporain, parce que voilà, c'était Artorama, il y avait plein d'étrangers, enfin, il y avait... Et en même temps, des gens qui étaient beaucoup plus street, qui étaient juste venus voir Lala Ace, qui jamais mettraient vraiment les pieds dans une galerie. Enfin, c'était cool aussi de brasser tout ce public super différent et de voir en fait que ça peut fonctionner, quoi. Et je pense aussi que
c'est l'enjeu pour nous, ouais, fille de Blédard.
Ouais, vraiment, c'est... parce qu'on a vraiment, et puis même celles qui faisaient avant partie du collectif, on a vraiment toutes grandi dans un contexte différent, et on a dû faire les caméléons parce qu'on a évolué dans des contextes toujours plus différents, et on est des espèces d'être un peu hybrides comme ça, qui avons autant pu zoner avec des gros bourges que des mecs de cité, que des gros bobos, enfin c'est vraiment
c'est ça qui nous fait un peu vibrer, quoi.
C'est ça, de voir en fait que c'est possible, quoi. Et là on l'a vu. C'est vrai que les 3 jours d'événement, et même avant, c'était super, c'était violent, mais quand on regarde le résultat et quand on voit que des gens complètement différents nous disent ah putain, mais bête de soirée, j'ai trop kiffé, c'était vraiment trop bien et tout, alors que ces personnes là sont vraiment, enfin, ont rien à voir les uns avec les autres.
C'est Radio Galère, merci à toi, Erika, et merci à Intersection et tout ce que tu fais depuis trop des années, qui nous donne la voix.
Je vais noircir.
Ouais, qui nous inspire aussi, quoi. C'est grâce à des gens comme vous qu'on s'est sentis aussi légitimes de faire ce qu'on faisait.
Ouais.
Ouais. Et ça, c'est important.
Nos grands frères et grandes sœurs qui nous font rendre compte que c'est possible. C'est important. Et un bisou à Célia qui n'est pas avec nous.
Ah ouais, on l'aime.
Voilà.
Et du coup, on peut vous suivre sur des réseaux sociaux, tout ça, tout ça.
Mm-hmm.
Ouais.
Ok.
Instagram, Facebook.
Oui, voilà, fille de Blédard au pluriel. Sur Instagram et sur Facebook. Et Dakota sur Instagram.
Et sur Facebook. Et sur SoundCloud.
Ouais, ça, c'est ce qui nous manque.
Et longue vie à vos projets. Et normalement, je pense que ça devrait aller parce qu'il y a tellement rien que. Je pense que en fait, vous avez tout pour réussir, quoi. Et j'espère que dans l'avenir, on pourra aussi faire des collaborations ensemble.
Bah, volontiers.
Yes.
Et faire des choses, en tout cas. Mmh. Et ouais, c'est vraiment un vent nouveau qui souffle, je trouve.
Ouais.
Merci j'espère. Beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Donc, de retour sur 88.4, j'ai dû malheureusement écourter l'interview parce que j'avais pris beaucoup de retard et mon émission arrive à terme. Et du coup, c'était la rentrée. Voilà, il y avait plein de choses à voir, plein de choses à faire. Mais il y a une petite surprise. Vous retrouverez la semaine prochaine, vendredi prochain plus exactement, l'interview en entier qui est vraiment très très riche et vraiment super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses en fait aussi. Et justement... il y a des astuces, bon, c'est pas vraiment des astuces, mais il y a une transmission où Alexia, Mariam et Célic nous disent par où ils ont commencé, ce qu'ils aspirent, leurs projets, et vous découvrez beaucoup plus de choses que malheureusement que là, parce que 1 heure c'est finalement long, mais finalement court aussi. Donc voilà, je vais vous laisser avec des prochaines émissions. Donc, je vous dis au mois prochain, parce que maintenant, les nouvelles de mars, c'est une fois par mois. Le dernier vendredi du mois. Voilà. Je vous dis bon week-end et à très vite. C'était Waka, alias Erika, pour les intimes. Voilà. Bonne soirée. Ciao, ciao. Tofa minga ya kamaruno e tata Mavaka bana dada mo e dada Tone dada